Bonjour à tous, bon dia à todos. Nous avons l'honneur de recevoir ici, dans le cadre de la 13e édition du festival Bruit des langues, l'écrivaine brésilienne Nara Vidal. Merci beaucoup pour votre présence à l'Université de Poitiers, Nara. Obrigada, muito obrigada pela sua presença na Universidade de Poitiers. Je voudrais remercier également Anna Boissier, étudiante en deuxième année de LEA, qui sera l'interprète de Nara Vidal, ma collègue Angélica Amancio, qui posera des questions à l'écrivaine avec moi, ainsi que tous les étudiants de portugais qui nous aideront à animer cette rencontre et toute l'équipe organisatrice de ce festival. Merci beaucoup à tous. Muito obrigada a todos. Nara Vidal est née dans l'État brésilien du Minas Gerais. D'une écriture sèche, inconfortable, blessante, elle s'insère dans la nouvelle vague d'écrivains brésiliens perçus comme dérangeants. Son œuvre mène une enquête psychanalytique à la fois profonde et subtile sur la condition humaine et plus spécifiquement féminine à l'époque contemporaine, ainsi que sur l'identité nationale brésilienne marquée par l'esclavage et l'immigration. Diplômée en lettres de l'Université fédérale de Rio et titulaire d'un master en art de la London Metropolitan University, elle est écrivaine, traductrice et enseignante de portugais et d'anglais. En 2001, elle s'est installée en Angleterre où elle habite actuellement. Auteur des livres pour l'enfance et la jeunesse, elle a publié en 2018 son premier roman, Sorte, Sort, qui remporte en 2019 la troisième place au prix Oceanos des littératures en langue portugaise. L'ouvrage a été publié également en néerlandais et en espagnol au Mexique. Mapas para desaparecer, cartes pour disparaître, son dernier recueil de nouvelles a été finaliste du Jabuti en 2021, le prix littéraire brésilien le plus prestigieux, l'équivalent du prix Goncourt au Brésil. En 2022, son nouveau roman, Eva, est sorti par la maison d'édition Todavia, et son conte nouvelle Puro, Pur, va sortir par la maison d'édition Relógio d'Água encore cette année. Très active également dans le milieu éditorial, son travail en tant que rédactrice en chef du magazine littéraire Capitolina a été récompensé en 2020 par le prix APCA, l'association des critiques d'art de l'État de São Paulo. Dans l'univers de la traduction, elle a fondé le Brazilian Translation Club, un projet en partenariat avec University College London, qui a rendu possible la publication d'une anthologie des contes d'auteurs brésiliens en anglais. Actuellement, elle est collaboratrice de la revue 5-4-1 et du journal Rascunho, Brouillon en portugais, et chroniqueuse pour la revue Claudia et le journal A Tribuna de Minas, La Tribune des Minas. Bon, je vais commencer notre conversation. Vamos começar a nossa conversa, Nara. Nara, vou ler um trecho do seu romance, Sorte, onde a gente vê uma imagem que condensa, na minha opinião, toda a potência literária dessa obra. Nara, je vais lire un extrait du roman Sorte, que condensa, à mon avis, toute la puissance littéraire de cet ouvrage. Donc, l'extrait est là. Je cite: Les Celtes, qui habitaient de ce côté des terres moins fermes que la terre du continent, explorèrent le monde en bateau. Le vent, le froid, le brouillard couvraient les lieux que, imaginaient-ils, la foi et l'espérance éclaireraient. Une petite île se plaçait pourtant au milieu du chemin des expéditions. C'était High Brazil. L'emplacement de l'île était le plus brumeux, celui dont l'accès était des plus difficiles. De nombreux bateaux ont heurté la pointe des fers de l'île et ont coulé. Des milliers d'hommes sont morts dans des naufrages. La pointe des fers n'a jamais été visible parce qu'elle avait la même couleur de plomb que la mer du Nord. La fumée qui couvrait la masse continentale ne se dissipait qu'une fois tous les 7 ans. Celui qui réussissait à y arriver était avalé en 7 jours par le sable de l'île qui se transformait en monstre affamé et misérable. À chaque gorgée, il finissait par générer un autre monstre dans son intérieur dont il mettait 7 ans à accoucher. Le Brésil n'a jamais cessé d'être un fantasme. Fin des citations. A imagem da ilha fantasma High Brazil, oriunda da mitologia celta, ela traz uma distopia associada ao imaginário do Brasil na sua obra. Eu gostaria de saber por que essa imagem atraiu a sua atenção e como ela é associada à história do romance Sorte. Donc, l'image de l'île fantôme High Brazil, issue de la légende celte, de la mythologie celte, elle est associée à une dystopie dans le roman Sort de Nara Vidal, qui est associée à l'imaginaire du Brésil. En fait, elle représente, c'est le symbole d'une dystopie qui est associée à l'imaginaire du Brésil dans le roman Sort de Nara Vidal. Donc, je lui ai demandé pourquoi cette image a attiré son attention et comment elle s'associe avec l'histoire de ce roman.
Merci, bonjour à tous. Désolée, je ne parle pas français. Anna está aqui para me ajudar. Obrigada pela pergunta, Karina. Eu vou falar um pouquinho aí, você traduz, por favor. Essa lenda celta, eu pesquisava sobre o livro. E esse livro ele foi feito de vários fragmentos de história e pesquisa. E essa foi uma das primeiras lendas que eu encontrei, das primeiras informações que eu quis colocar no romance, por causa do nome. Me chamou a atenção o nome High Brazil, porque eu comecei a pesquisar de onde vinha o nome Brasil, temos toda a história do pau-brasil, mas eu me deparei com essa lenda, que vai casar com outro elemento do texto, que eu já vou falar.
Donc, bonjour à tous, je vous remercie d'être ici, merci à Karina. Et donc en fait, pour répondre à votre question, ce qui m'a attirée dans cette légende, c'est que en fait, le livre que j'ai écrit est composé de plusieurs extraits de recherches et d'histoires différentes. Et donc pendant que je faisais mes recherches, je me suis vite retrouver face à cette légende avec le nom de cette île High Brazil qui du coup m'a fait associer rapidement avec le Brésil, puisque le Brésil en portugais ça se dit Brasil et la légende parle de High Brazil. Et donc j'ai commencé aussi à faire des recherches par rapport à l'origine du nom du pays Brésil, donc avec le Pau Brasil, et donc c'est pour ça que ça m'a autant attiré l'attention.
E aí, a partir dessa lenda, eu comecei a entender que eu podia pegar essa lenda e transformar num dos elementos da minha narrativa. Eu acho que essa lenda, além de tudo, ela é uma metáfora para o que o Brasil representa. O Brasil, como um dos países do Novo Mundo, é um país que atrai, os imigrantes têm uma ideia de Eldorado, um lugar melhor, um lugar para se viver, um lugar longe de conflitos, vários, mas que, na verdade, essa lenda ilustra exatamente esse engano ou esse sonho, por ser exatamente um lugar que fica na fantasia, no imaginário, né, de quem deseja ir para um lugar melhor. Eu acho que o imaginário é exatamente esse lugar que tem essa boa vontade de imaginar um lugar melhor. Portanto, eu acho que é uma metáfora para o potencial, para as possibilidades, mas acaba sendo, em contrapartida, um lugar de problemas, um lugar de conflitos por muitos povos, muitas origens, muitas influências. Portanto, acaba sendo uma metáfora, né? Essa ilha tão atraente, mas que, na verdade, ela afunda e ela vira um fantasma no imaginário.
Donc, en fait, Je me suis rapidement rendu compte que la légende de cette île, ça pouvait très bien représenter le Brésil, le pays Brésil que l'on connaît, puisque le Brésil a très longtemps été associé à une espèce d'image d'Eldorado par les immigrants, cette espèce de terre de rêve où tout est possible, plein d'opportunités, le rêve est possible, et qu'en fait, quand on s'y rend, on se rend compte que c'est pas du tout la vérité. Il y a plusieurs questions sociopolitiques, des difficultés qui viennent justement de ce conflit entre des personnes de multiples origines qui se rencontrent sur ce même territoire, qui n'est pas préparé à les accueillir. Et donc, c'est une métaphore parfaite pour illustrer ce qu'est le Brésil, le pays, par la légende.
Perfeito. É, eu acho que é isso, eu acho que no final das contas é uma metáfora, né, para esse Eldorado, para essa ideia de Eldorado que o Brasil pôde, né, que o Brasil representou durante muito tempo para tanta gente, e ainda às vezes até representa, e eu acho que é exatamente isso, né, essa ideia de perfeição que, na verdade, está tão afundada e enfim, diferente do imaginário, né, do que a gente imagina. Mas eu acho que eu já me repeti.
Au risque de se répéter, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée de métaphore, ce paradoxe entre le rêve Brésil, l'île légendaire où tout est possible, Eldorado, et la réalité que l'on y trouve.
Bon, merci beaucoup, Nara. Muito obrigada, Nara, pour votre réponse. Muito obrigada pela sua resposta. Et bon, je crois qu'un fait historique qui illustre bien cette idée de... Je vais commencer en portugais, c'est plus facile. Acho que um fato histórico que ilustra bem essa distopia é logo na página 28, associada à Guerra da Cisplatina, o fato dos homens serem obrigados a servir na guerra, né? Você cita: todo homem que entrasse no Brasil, estrangeiro que fosse, seria obrigado a servir na Guerra da Cisplatina por pelo menos 5 anos antes de conseguir um lote de terra, se conseguisse. Quais foram as suas pesquisas históricas para se informar sobre essa Guerra da Cisplatina e como os imigrantes irlandeses caíam, né, nessa armadilha, né? Donc, à la page 28 du roman Sorte, Sort, nous avons un fait historique qui illustre très bien cette dystopie du Brésil. C'est associé à la guerre de la Cisplatine, une guerre qui a eu lieu entre le Portugal. À l'époque, le Brésil était encore une colonie, donc c'était le Portugal. Et après, il a eu son indépendance, le Brésil, parce que la guerre a duré entre 1821 et 1826. Et pendant cette guerre, les immigrés irlandais qui arrivaient au Brésil étaient obligés à servir dans l'armée brésilienne. Donc Nara Vidal, elle cite à la page 28 de son roman: tout homme qui entrait au Brésil, de n'importe quelle nationalité, serait obligé à servir dans la guerre de la Cisplatine pendant au moins 5 ans, avant d'obtenir un lopin des terres, s'il y arrivait. Fin de citation. Donc, j'ai demandé à Nara si elle pourrait nous parler un peu de ses recherches historiques pour la réalisation de ses romans, et aussi des stratégies narratives qu'elle a utilisées pour construire ce jeu entre fiction et non-fiction.
Eu acho que essa passagem ilustra muito bem exatamente essa metáfora aqui da ilha de High Brasil, né? Porque esses imigrantes irlandeses fugidos da fome e da batata na Irlanda entram no Brasil com a ideia de viver uma possibilidade melhor, né, uma vida melhor. E quando chegam no Brasil, existe aí uma mentira do governo brasileiro que, para atrair esses trabalhadores, promete então terras para que sirvam, para que eles trabalhem como colonos, ou seja, eles vão ter a terra deles e ser donos daquele pedaço de terra. Mas o que acontece é outra coisa. O que acontece é que, quando eles pisam no Brasil, os homens então são forçados, né, a lutarem nessa guerra da Cisplatina, e muitas vezes as mulheres então ficam perdidas, ficam, né, naquele tempo, ou seja, elas precisavam da autoridade masculina, portanto muitas mulheres ficam perdidas sem lugar para ir. Depois eu falo da pesquisa.
Donc en fait, le contexte de cette citation, le contexte de la guerre de la Cisplatine est parfait pour illustrer ce dont on parlait précédemment, cette métaphore par rapport à l'île de Rae-Brazil, cette faux Eldorado, puisque tout à fait, tout immigré, peu importe sa nationalité, arrivé au Brésil avec la promesse d'avoir ses propres terres à cultiver, une vie nouvelle pour sa famille, et en fait la réalité c'était qu'ils étaient forcés de partir en guerre au moment où ils mettaient les pieds au Brésil. Les femmes se retrouvaient seules avec leurs enfants. À l'époque, elles avaient besoin d'un homme et elles n'avaient pas autant d'opportunités de travail qu'aujourd'hui. Donc, c'était terrible. Et pour revenir à cette question de la métaphore, avant de répondre par rapport aux recherches, c'est le parfait exemple.
E em relação à pesquisa, esse foi um livro que me levou 6 anos para ser escrito. É uma novela, não posso nem chamar de um romance, é uma novela. Ele é muito curto, são 100 páginas, mais ou menos, dependendo da edição. A edição brasileira são 100 páginas, e em outras línguas, acho que na mexicana tem 104, não sei porquê. Mas a pesquisa desse livro foi muito intensa, foram 6 anos... pesquisando sobre essa história e tentando colocar junto elementos que então fizessem essa narrativa acontecer. E essas partes históricas, elas me caíram como, eu não posso dizer inspiração, mas como elementos que me possibilitaram explorar uma narrativa mais criativa, porque a história, ela nos fornece elementos para escrita, mas ela, um escritor de ficção não tem necessariamente que seguir a história, né? Isso seria um absurdo, ou seja, eu tenho a liberdade de escrever sobre o que eu quiser. Mas essas pesquisas, né, históricas, no caso, tem a Guerra da Cisplatina, tem a questão das pessoas escravizadas, tem vários elementos que me levaram aqui a fazer essa junção. Portanto, foi um trabalho de muita pesquisa, pesquisa intensa, profunda. E só uma coisa que eu quero dizer, que durante a pesquisa era sempre assim, eu começava a pesquisar um assunto e aquilo se ramificava, ia para outro. Portanto, eu tive vários elementos ali para lidar com eles e até que certo ponto eu consegui, então, colocá-los numa narrativa mais corrente, fluida.
Donc ce roman, c'est plutôt une nouvelle qu'un roman puisqu'il est assez court, il a environ une centaine de pages selon les différentes éditions, mais il m'a quand même pris un certain temps à écrire, donc 6 ans, parce que justement à cause des recherches historiques, il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de recherches, parce que je trouve qu'enrichir son récit avec des faits historiques, bah, justement ça sert à donner un scénario, ça sert à enrichir, non pas qu'un auteur de fiction soit obligé de respecter les faits historique, on est libre d'écrire ce qu'on veut, mais en cherchant à travers l'histoire, on peut trouver des éléments qui servent à enrichir le récit. Et la chose qui s'est passée avec moi, c'est que au fur et à mesure où je faisais des recherches, mes recherches se ramifiaient en plusieurs autres recherches, ce qui fait que ça a pris un temps beaucoup plus conséquent que ce que je pouvais imaginer. Et ce fut justement après 6 ans que j'ai pu regrouper ce tout et écrire mon livre.
E também, só para complementar, eu gosto muito de história, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler sobre história, registros históricos, e portanto eu acho que a história nos apresenta então essas possibilidades de ficção, né? A gente pode ficcionalizar em cima da história. O meu próximo romance que sai esse ano, que se chama Puro, ele é sobre um dos momentos históricos no Brasil que foi pouco falado, que é o período do eugenismo, né? No eugenia no Brasil, no governo do Getúlio Vargas, década de 30, que na Constituição brasileira existia lá um artigo dizendo que todo brasileiro do bem, cidadão do bem, deveria ajudar o Brasil a se higienizar e se embranquecer. Ou seja, é tão absurdo quanto soa mesmo, né? Tão absurdo quanto parece, um país como o nosso, e qualquer país que seja, enfim. Mas eu gosto muito de pegar esses elementos históricos e trazer para a ficção como um ponto de partida para provocar, para refletir sobre essas questões.
Et pour compléter, le fait est que j'aime beaucoup prendre des éléments historiques et les apporter dans mes écrits fictifs parce que je trouve que c'est un excellent point de, enfin un excellent début pour mon récit. Donc, par exemple, dans le roman Pur qui va sortir cette année, j'ai basé mon récit sur la période eugéniste politique au Brésil, donc la période de Getúlio Vargas, où il y avait vraiment dans la Constitution un article qui disait que tout bon citoyen devait aider la population en général à blanchir ces nombres. Et donc c'est absurde dans n'importe quel pays, mais encore plus au Brésil qui est complètement mixte. Et, enfin, voilà. Et donc, juste pour compléter, vraiment, je trouve que c'est vraiment important pour moi de prendre des éléments historiques sur lesquels baser mes récits.
Muito obrigada pela sua resposta, muito completa, Nara. Merci beaucoup pour votre réponse, très complète, Nara. Nara, o seu romance Eva pode ser considerado uma autobiografia da Eva, já que é em primeira pessoa e que ela começa pela sua infância e vai até uma morte simbólica, né, dela, né, mesma, ou um testemunho de todas as mulheres representadas por essa grande mãe das mulheres, a Eva, vítimas de violência, né, desde o primeiro momento da sua história. Donc, Nara, votre roman Eva, est-ce qu'il pourrait être considéré comme une autobiographie d'Eva dès son enfance jusqu'à sa mort symbolique, ou plutôt un témoignage de la violence contre toutes les femmes, parce que Eva, c'est la mère de toutes les femmes, la mère qui de la mère biblique.
Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que o livro tem esses dois elementos. Eu acho que é uma combinação desses dois elementos. Eu vejo a história da Eva é uma história de representação. Ela representa, sim, esse coletivo da mulher como essa mulher oprimida e reprimida, mas também para que eu possa contar essa história coletiva, eu precisei dar um foco numa personagem bastante problemática. Portanto, nós acompanhamos uma personagem como se ela representasse vários de nós.
C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, c'est un peu des deux éléments en même temps. Effectivement, l'histoire d'Eva raconte l'histoire de... peut être décrite comme racontant l'histoire de toutes les femmes, ça symbolise toutes les femmes, mais j'avais besoin de me concentrer sur un personnage principal, Eva, et qui donc, à travers ce personnage, je peux raconter l'histoire de la réalité de plusieurs femmes, des milliers de femmes au Brésil.
Et pourtant, je pense qu'il y a... A Eva tem toda essa simbologia bíblica na nossa cultura ocidental, enfim, católica, e bom, eu acho que a partir dela é interessante, porque eu tenho muitas, muitas leituras do Eva, né? Muitas pessoas leem o Eva e falam comigo sobre as próprias leituras. Então, e cada pessoa pega para si uma parte da Eva como um todo, ou como por outro lado, algo bastante íntimo. Então, eu acho que, de uma maneira, a Eva acaba conversando, sendo mesmo tão complexa do jeito que ela é, eu acho que ela acaba conversando de várias formas e por vários momentos com cada um desses leitores.
Je pense effectivement qu'on peut dire que ça représente toutes les femmes, puisque en fait j'ai plusieurs lecteurs et lectrices qui lisent le livre et qui font leur propre interprétation, donc il y a plusieurs interprétations possibles, et en fait je me rends compte que à chaque personne qui lit le livre va interpréter le personnage Eva de façon différente, et en fait c'est un personnage tellement complexe qu'il dialogue avec la réalité des différents lecteurs et lectrices, et de ce fait sa complexité la fait converser avec plusieurs lecteurs, la fait représenter des milliers de femmes en même temps.
Obrigada, Nara. Merci beaucoup, Nara. Bon, une dernière question sur le roman Eva maintenant, en fait encore sur le roman Eva. L'héroïne, bon, je vais poser la question en portugais d'abord, j'avais oublié. Bon, uma última pergunta para você sobre o romance Eva ainda. A heroína epônima, a Eva, ela tem uma relação interessante com a língua portuguesa. E eu sou professora de português, então é claro que isso chama, né, me chamou a atenção. E eu vou citar uma passagem que me tocou bastante, me doeu, né? Eu posso dizer que me doeu. A língua ilhada, a língua sozinha, este português. Então, e é interessante observar que a mãe da protagonista também era professora de português. Então, como a imagem da língua materna se associa com a imagem da figura materna no romance, né, Eva? Donc j'ai posé une question à Nara sur le roman Eva. Encore sur le roman Eva, parce que l'héroïne éponyme de ce roman, elle est très cruelle avec sa propre langue maternelle, le portugais. Et bon, étant donné que je suis enseignante de portugais, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait mal même. Donc je cite la langue isolée, la langue seule, ce portugais. Fin des citations. Et il est intéressant de remarquer que la mère de la protagoniste, Eva, était elle aussi professeure de portugais. Comment l'image de la langue maternelle est-elle associée à la figure materne dans le roman Eva?
Obrigada, Karina. Essa questão da língua é interessante, porque é um dos elementos que faltam na Eva. Quer dizer, deixa eu colocar isso melhor. Na verdade, é um elemento que ela tem no livro, é o que ela tem para fazer, é o que ela tem para doar, e ao mesmo tempo é o que falta quem receba o que ela tem para doar, porque ela não tem alunos, ela é uma pessoa que o trabalho dela não dá para ela sustento algum. E a Eva, das grandes características da Eva é o seguinte: tudo falta na Eva. Ela não tem nada. Ela não tem amigos, ela não tem a mãe, ela não tem dinheiro, ela não tem casa, ela não tem renda, ela não tem amizade, ela não tem nada, ela não tem comida. Ela não tem nada. O que ela tem, ninguém quer, que é essa língua. E em momento algum do livro, eu comento onde ela mora, mas é claro que ela mora... Bom, no final ela mora em Londres, mas acho que naquele meio eu não cito precisamente o local onde ela mora. Mas a gente entende que ela mora num lugar onde ela ensina língua estrangeira. Então, é interessante pensar no que ela tem, a única coisa que ela tem, o recurso que ela tem, até como meio de viver, é algo que não é suficiente e faz dela essa pessoa ainda mais insuficiente nesse sentido.
C'est une question très dure qui touche le personnage d'Eva, puisque en fait le seul recours, la seule chose que Eva elle a dans tout le roman, c'est la langue portugaise, c'est sa langue, et c'est une question identitaire, c'est quelque chose qu'elle a elle, mais c'est aussi quelque chose de matérialiste, d'économiste, puisque elle s'en sert pour vivre, elle s'en sert pour travailler, c'est son matériel de travail, son outil de travail. Mais c'est assez marquant de remarquer qu'en fait c'est aussi elle est très incomplète parce qu'elle n'a que ça à donner. Et elle n'a personne à qui le donner. Donc, c'est-à-dire qu'elle peine à trouver des élèves, elle peine à trouver des élèves qui veuillent apprendre le portugais et avec qui elle puisse échanger et qui puisse lui permettre de vivre, finalement. Et donc, je ne pense pas avoir spécifié où habitait Eva au milieu du livre, mais on peut comprendre qu'elle habite dans un contexte où elle enseigne les langues étrangères, même si à la fin, elle finit... À Londres. Et en fait, c'est juste très dur de remarquer qu'en fait elle est isolée en elle-même, puisque le seul recours qu'elle a à échanger avec les autres, c'est celui que finalement personne ne veut.
Et só para complementar, eu acho que essa questão da língua também é interessante, porque nesse momento me faz pensar também na minha motivação para desenvolver essa questão da língua, porque claro, como estrangeiros que somos, ou imigrantes que somos, temos sempre a questão da língua muito presente, né? É uma constante na nossa vida. Portanto, nós temos sempre em mente as limitações que essa língua nos coloca, ou o que podemos atravessar através dessas línguas. E, ao mesmo tempo, ela nos reduz, ela nos exclui, mas, ao mesmo tempo, ela nos possibilita um caminho mais longo e encontrar outras culturas, enfim.
Et donc, juste pour compléter cette idée par rapport à la langue, c'est assez intéressant de remarquer que, surtout quand on est étranger, surtout quand on est immigrant, la langue, en même temps, c'est un facteur qui nous isole, qui nous réduit, qui nous limite, mais en même temps, c'est un facteur qui nous proportionne des rencontres avec d'autres cultures et qui donc nous permet d'aller de l'avant. Et c'est assez paradoxal et c'est très intéressant à remarquer.
Merci. Merci. Bom, je remercie énormément Nara, agradeço enormemente a Nara, et je crois que ça a très bien fini, mes questions sont très bien finies. Minhas questões terminaram muito bem. Je passe la parole maintenant à ma collègue, à Angélica Mancio. Passo a palavra agora à minha colega, Angélica Mancio.
Bonjour, vous m'entendez bien? Oui? Boa tarde, Nara. Eu vou aproveitar o gancho dessa questão para lhe fazer também uma pergunta sobre a língua portuguesa. Parece que você tornou uma espécie de embaixadora do português no Reino Unido e na Europa, e a gente agradece por isso, aliás. E eu gostaria de saber, então, quais são os desafios de se ter como língua de trabalho um idioma ainda hoje considerado periférico ou semi-periférico. Donc, j'aimerais profiter de la dernière question pour vous imposer une autre concernant la langue portugaise. Il me semble que vous êtes devenue une sorte d'ambassadrice de la langue portugaise au Royaume-Uni et en Europe. Il nous faut d'ailleurs vous remercier pour cela. Donc, quels sont les défis d'avoir comme outil de travail une langue qui est toujours considérée comme périphérique?
Obrigada. Eu não acho que eu mereça esse título, você entende? Eu acho que há muitas questões aí, né? Assim, eu posso, porque também temos o tempo curto, mas eu acho que eu posso comentar que exatamente por ser imigrante, né? Na minha casa falamos português, mas falamos também inglês. Ou seja, eu tenho dois filhos, eles falam português comigo, mas inglês com todo o resto. Então, é uma língua de muito domínio, uma língua muito dominante. E ela só sobrevive por minha causa, né? Naquele núcleo familiar. E eu acho que a língua, a gente sabe disso, vocês estudam línguas também, vocês vão saber, a língua ela nunca existe por si só. A língua precisa de apoios, né, que são os elementos culturais, né, que são as artes, a cultura popular também faz parte das artes. Portanto, eu acho que eu quis trazer para mim algo que me fixasse a um lugar que eu não queria perder.
Je ne pense pas mériter ce titre donc d'ambassadrice de la langue portugaise, mais je comprends pourquoi vous le dites. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en vivant à Londres, mes enfants sont nés en Angleterre, et ils grandissent à Londres et tout ça. Enfin, ils parlent l'anglais avec le monde entier, enfin, le reste, tout l'environnement en dehors, mais portugais qu'avec moi. Et donc, c'est une langue très, très dominatrice. C'est une langue qui domine toute leur vie, excepté à la maison où le portugais survit grâce à moi puisque je ne parle qu'en portugais avec mes enfants. Et je trouve ça très important puisque les langues elles n'existent pas d'elles-mêmes. Vous qui étudiez les langues le savez, les langues n'existent pas d'elles-mêmes, elles ont besoin d'appui culturel, elles ont besoin d'être parlées, et c'est pour ça que j'ai voulu apporter, maintenir cet élément dans ma vie même en étant en Angleterre.
Só para complementar, eu acho que eu pareci meio generosa, mas não é verdade. Eu sou mesmo, é o mesmo egoísmo meu trazer essa língua, porque para mim é muito importante ter essa constante identificação com quem eu sou. Ou seja, ainda que eu more na Inglaterra já há 21 anos, eu não escrevo, não faço uma escrita criativa, não escrevo ficção em outra língua que não seja a minha materna. Então, eu acho que isso é um exemplo, né, do quão eu preciso dessa língua ainda, do quanto que ela é, para mim, ainda fundamental para minha própria expressão identitária.
Juste pour compléter, je me suis rendu compte que j'ai pu paraître un peu condescendante, généreuse, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que la langue portugaise, c'est plutôt un aspect égoïste de ma personnalité, puisque la langue portugaise, c'est lié à mon identité. Et si je choisis de continuer de parler cette langue chez moi, de l'écrire, c'est vraiment parce que c'est en relation avec mon identité, ma seule façon de m'exprimer. Je ne vais pas écrire de la fiction en anglais ou des livres en anglais. Pour m'exprimer, j'utilise ma langue maternelle, le português.
Muito obrigada. Você também é tradutora e a gente sabe que a profissão de tradutor é um tanto solitária. Então, eu gostaria de saber se foi por esse motivo que você criou o Brazilian Translation Club. Você pode nos falar um pouco sobre esse projeto coletivo que rendeu, inclusive, a publicação de uma antologia de contos brasileiros em inglês? On sait que le métier de traducteur est plutôt solitaire. Est-ce que c'est pour cela que vous avez créé le Brazilian Translation Club? Pouvez-vous nous en parler un peu plus sur ce projet collectif qui a même valu la publication d'une anthologie des contes brésiliens en anglais?
Quando você me fazia essa pergunta, eu fiquei pensando, mas que trabalho será que eu faço que não é solitário? Mas de professora, talvez não seja tão... Eu acho que o trabalho de tradução é muito solitário e demanda muito tempo, muita paciência, né, para que seja executado. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, tradução literária, e eu acho que tem duas questões no Brazilian Translation Club, que foi criado, foi uma ideia minha e foi uma ideia acolhida pela University College London, e essa ideia era exatamente... Esses dois pontos. Um era trazer ou proporcionar aos tradutores, estudantes da graduação que trabalhassem tradução literária do português para o inglês. E a outra questão era ainda um pouco maior, que era mais ampla, no caso, que era tentar criar um canal de divulgação de literatura contemporânea brasileira na Inglaterra, que é muito reduzido.
Pendant que vous me posiez cette question, je me suis demandé quel métier que je pratique n'est pas solitaire. Peut-être simplement celui de professeur, puisque j'ai besoin de mes élèves. Mais oui, effectivement, le métier de traducteur est très solitaire, puisque ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps. On est chez soi à traduire jusqu'à ce qu'on a fini. Et donc, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Brazilian Translation Club, pour que les jeunes traducteurs aient une base sur laquelle s'appuyer, retrouver d'autres traducteur, mais c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai créé ce club, qui est peut-être un peu plus ambitieuse, c'est vraiment créer une chaîne de diffusion, un média de diffusion de la littérature brésilienne contemporaine en Angleterre, qui est assez réduit finalement.
E sobre a antologia, porque a ideia de fazer esse Brazilian Translation Club era que, no final das contas, a gente pudesse disponibilizar uma coleção bilíngue para que leitores do português e do inglês conhecessem, então, essa literatura brasileira contemporânea, que foi uma curadoria minha, eu escolhi os textos, enfim, e o que deu muito trabalho. Mas, e aí a gente fez uma outra parceria com uma universidade do Brasil, Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, e a partir daí nós criamos então essa possibilidade de fazer uma edição completa. A edição toda da revista naquele trimestre foi dedicada ao Brazilian Translation Club. E aí a gente conseguiu então distribuir essa revista para quem quisesse, e ainda está disponível gratuitamente.
Par rapport à l'anthologie de contes brésiliens, l'ambition était vraiment de créer un recueil de contes brésiliens bilingues pour que les lecteurs anglophones et lusophones puissent lire le livre et y avoir accès. Ça m'a pris beaucoup de temps, puisque c'est moi-même qui ai choisi les contes qui les composeraient. J'ai aussi dû à plus tard faire une faire co-équipe, pardon. Faire équipe. Désolée, j'ai un trou. J'ai aussi dû créer une relation partenariale avec l'université de Santa Catarina. Et donc, juste pour vous dire que l'anthologie est disponible gratuitement pour tous ceux qui s'intéressent à la lire. Voilà, désolée.
Non. Eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que é uma maneira interessante. Aliás, eu gostaria muito de ver essa iniciativa em outros lugares do mundo, né? Para que a literatura fosse, então, mais divulgada, literatura contemporânea. Porque muitas vezes nós vemos a tradução de clássicos, né? Isso sim, nós temos alguns clássicos traduzidos. Jorge Amado, Clarice Lispector, Machado de Assis. Estão em livrarias, em edições muito bonitas em inglês. Mas os meus colegas, as nossas produções ficam muito reduzidas ao mercado brasileiro e às vezes chega até Portugal, mas também não é muito comum.
Et c'est faisait aussi, enfin, c'était vraiment aussi pour diffuser la littérature brésilienne en dehors du Brésil, puisque même si on a certains grands noms qui arrivent à atteindre le Portugal et certains autres pays, je pense par exemple que Machado de Assis atteint le Portugal, peut-être la France aussi, mais c'est pas très courant. Et donc c'était une façon de diffuser aussi les grands noms de la littérature brésilienne ailleurs qu'au Brésil et qu'au Portugal.
Você também atua no mercado editorial de outras formas, você colabora com revistas como 451, você é colunista de jornais como Rascunho, editora e fundadora da revista Capitolina, que ganhou um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Então, de onde vem a inspiração para criar essa revista, em primeiro lugar, e de onde você tira tanta energia para mantê-la em atividade, já que, né, ela é gratuita, ela é totalmente um trabalho voluntário, fruto de trabalho inteiramente voluntário. Donc je demandais comme elle prend le rôle aussi dans le marché éditorial, elle collabore à des revues comme 451, elle est chroniqueuse dans des journaux comme Rascunho, ainsi qu'éditrice et fondatrice de la revue Capitoline. Je vous rappelle, cette revue, elle a remporté un prix de l'Association des critiques d'art de la ville de São Paulo en 2020. Donc, je voulais savoir d'où est venue l'inspiration pour créer cette revue et d'où vient l'énergie nécessaire pour la maintenir, sachant qu'il s'agit d'une publication gratuite de travail volontaire.
A energia, eu tomo vitamina todos os dias. Eu acho que, bom, por exemplo, a revista 451 é uma revista excelente, se vocês quiserem conhecer, ela é impressa, mas ela também tem online, ela tem vários artigos, várias matérias que são gratuitos, então vocês podem ver, e é uma revista basicamente de ensaios. Eu gosto muito de escrever ensaio, então eu faço essas propostas de pautas para 451, então eu já escrevi sobre vários temas, vários escritores. Eu escrevo muito sobre Shakespeare, que é um autor que eu estudo há muito tempo, e também, bom, depois eu falo da Capitolina.
Alors donc pour l'énergie, sachez que je prends des vitamines tous les jours, ça me fait du bien. Et pour la revue 451, la revue, donc si je peux me permettre de traduire le titre pour que vous puissiez le comprendre, c'est 451. C'est une revue qui est composée de plusieurs articles, notamment la plupart ce sont des essais, parce que j'aime beaucoup écrire des essais, et sur plusieurs thèmes, mais aussi sur des écrivains comme mon préféré Shakespeare. J'aime beaucoup Shakespeare, donc j'écris beaucoup d'essais sur Shakespeare, et c'est un travail volontaire. Si vous pouvez la voir, elle est disponible en PDF sur internet, elle est complètement gratuite, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas.
E a Capitolina. A Capitolina nasceu durante a pandemia. Muita coisa nasceu durante a pandemia, né? Muita, muita coisa. E a Capitolina foi exatamente uma ideia que eu tive para continuar uma atividade que fosse ligada, de novo, à literatura, que não falasse necessariamente sobre o momento sombrio que vivíamos, e que fosse mesmo uma pausa, um respiro criativo, artístico, para que as pessoas, então, enviassem seus textos e fossem disponibilizados nessa plataforma. Mas eu comecei, assim, de uma forma totalmente despretensiosa, e acabou que muita gente interessante, muitos nomes que eu admiro muito no Brasil, começaram, então, a colaborar com a revista, e acabou virando uma publicação que muita gente gostou dela, ou seja, eu também acabei entendendo que eu gostava muito de fazer o trabalho de edição. Eu tive muito prazer fazendo essa revista. Ela está parada porque não há tempo para tudo, mas eu tenho muitos projetos agora, então eu tive que parar durante um tempo, mas é uma revista que veio mesmo com um respiro, uma pausa para aquele momento e deu certo.
Donc par rapport à la revue littéraire Capitoline, c'est une revue qui a vu le jour pendant la pandémie. Beaucoup de choses ont vu le jour pendant la pandémie. C'est une initiative complètement volontaire et donc qui me donne beaucoup de travail puisque c'est un travail complètement volontaire. Et je l'ai faite un peu sur un coup de tête au début, mais après quelques publications, j'ai vu que beaucoup de noms de la littérature au Brésil s'intéressaient beaucoup, ça leur plaisait et en fait ils ont contribué et ça a grandi. Et je me suis rendu compte aussi en faisant cela que le travail d'éditrice me plaisait aussi énormément. Et donc, c'est un projet que je tiens à cœur et que je vais maintenir vivant, même s'il y a des moments de pause, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps et que ça te demande quand même beaucoup de travail.
Donc, je dois m'arrêter là, malheureusement. J'ai plein de questions. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois parce qu'on a d'autres activités prévues.
Donc, on ouvre maintenant l'espace aux questions du public.
Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Merci aussi à l'interprète pour son travail. J'ai remarqué que dans vos livres, d'après cette présentation, vous parlez de beaucoup de sujets historiques importants et graves, comme par exemple cette constitutionnalisation au Brésil de l'eugénisme dans le passé. Est-ce que vous pensez, en tant qu'écrivaine, que c'est important en fiction de parler de ces sujets importants qui sont peut-être parfois oubliés pour faire des témoignages et dénoncer, pour voilà, montrer aux gens, en fait, pour pas que ça s'oublie, pour qu'il y ait vraiment une mémoire. Et est-ce que vous vous considérez comme une écrivaine engagée?
Então, muito obrigada, Nara, pela sua intervenção. Obrigada também à intérprete pelo seu trabalho. Eu percebi que nas suas obras você faz muitas referências a fatos históricos de muita gravidade, como, por exemplo, a constitucionalização da eugenia no Brasil. E eu gostaria de saber se você pensa, enquanto escritora, que existe um dever de memória que deve ser cumprido, mesmo na ficção, sobre fatos para impedir que sejam esquecidos.
Muito obrigada pela sua pergunta. Tem algumas questões aí. Primeiro de tudo, eu acho que nós, como escritores e agentes políticos que somos, estamos sempre preocupados com essas questões. Mas eu acredito piamente que a literatura é um lugar de liberdade. Portanto, quando eu escrevo, eu não tenho essas questões premeditadas, mas essas questões aparecem Na literatura, no que eu faço. E elas aparecem como talvez uma maneira de provocar um pensamento, de provocar uma reflexão. Como qualquer obra de arte, você vê um quadro, você vê um filme, você vê uma peça de teatro, uma dança, essas manifestações artísticas, elas nos enriquecem a partir de como elas nos provocam pensamentos. E essas provocações, esses pensamentos, que nos perturbam às vezes, servem como fundamento para debates. Eu acho que o debate é a maior questão, né? Esses livros servem para aumentar o debate, para enriquecer o debate. Mas eu não é de uma forma premeditada, mas também não é de uma forma ingênua.
Donc je vous remercie de votre question. Alors je pense tout d'abord que tous les écrivains se soucient de façon générale de ce genre de questions, de devoirs de mémoire, mais en tout cas pour moi ce n'est pas du tout prémédité. Je pense tout d'abord que la littérature est un endroit de liberté, de grande liberté, et donc en fait c'est au fur et à mesure que j'écris que ces questions apparaissent, et quand elles apparaissent, je ne me gêne pas d'en parler. Puisque en fait, l'art, en général, toutes les manifestations d'art provoquent la réflexion, provoquent des pensées, même les tableaux, le théâtre et tout ça. Et en fait, ça sert à provoquer des pensées et à baser des débats, donc ça, à générer des débats. Donc, quand je le fais, ce n'est pas prémédité, mais ce n'est pas de façon naïve non plus, puisque tout ce genre de manifestation artistique sert à provoquer des débats et à faire qu'on en parle, en fait.
As cortinas começaram a se abrir e eu via de uma estreita greta um gato, uma xícara, piano. Passei também a ver a luz, dançando. Com o tempo, além das cortinas, as janelas se abriram. Rose passou a contar. Antes de se esquecer de tudo e de perder o marido, era tão sissuda. Não falava com ninguém. Mal saía de casa. Já entrava de novo como as poucas compras de mercado num pacote de papel. Às vezes, tinha jornal nas mãos, mas nunca tinha bom dia que fosse.
Eu olhava insistentemente para aquela mulher, seria que perdeu a alegria de viver em algum lugar, e ela passava por mim, mesma calçada, e olhava o chão. Desperdiçava meu sorriso e meu oi sempre pronto para ser usado. Mas, desde que Alfredo foi embora, pôde-se inclusive ouvir a Rose cantando ópera. Trecho do conto Rose, da coletânea Mapas para Desaparecer.
Ils ont pris Alfredo, le mari de Rose, et il n'est pas revenu. Petit à petit, les rideaux ont commencé à s'ouvrir et je pouvais voir, par une fente étroite, un chat, une tasse et un piano. J'ai aussi commencé à apercevoir Rose en train de danser. Avec le temps, en plus des rideaux, les fenêtres se sont ouvertes aussi. Rose a commencé à chanter. Avant de tout oublier et de perdre son mari, elle était tellement sérieuse qu'elle ne parlait à personne. Dès qu'elle sortait de la maison, elle revenait avec ses quelques achats du marché, emballés dans des sacs en papier. Parfois, elle tenait dans ses mains un journal, mais malgré cela, ce n'était jamais une bonne journée.
Je regardais avec insistance cette femme sérieuse, qui avait perdu sa joie de vivre quelque part, et elle passait devant moi, sur le même trottoir. Et elle regardait le sol. Mon sourire et mes bonjours, toujours suspendus au bout de mes lèvres, étaient, avec elle, gaspillés. Depuis qu'Alfredo est parti, maintenant, on peut entendre Rose chanter de l'opéra. Extrait du conte Rose, du recueil Carte pour disparaître. Pressa, passos que seguem, sua respiração. Busca o ar que falta. Anda rápido, suga o ar que contorna o ar morto em preto e branco. Passos, pressa, pedras, escorrega, cai. Se levanta. Rápido, passos largos, não olha para trás, olha para trás. Corre, a falta de ar. A casa ainda está longe. É animal, vai ser capturado, abutres como em carniça. Morte. Corre, não tropeça. Corre, passos em convulsão. Tropeça. Pedregulhos grudam no suor das mãos. Levanta, respiração ofegante. Corre, escapa por entre os dedos. Grita, corre mais. Toque, cale-se. Silêncio. Silêncio, Carmen. Silêncio, porra. Trecho do conto Carmen Stravio, da coletânea Mapas para Desaparecer.
Elle est pressée. des pas qui suivent, son expiration. Elle cherche l'air qui manque, elle marche vite. Elle aspire l'air qui contourne l'air mort en noir et blanc. Des pas, elle est pressée, des pierres. Elle glisse, elle tombe, elle se relève, vite, de grands pas. Ne regarde pas en arrière, regarde en arrière, cours. Le manque d'air, la maison est encore loin, c'est une bête. Elle va être capturée, des charognards mangent la chair morte, la mort. Elle court, ne trébuche pas, elle court. Des pas en convulsion, elle trébuche. Des cailloux collent à la sueur des mains, elle se lève, respiration haletante. Elle court, elle échappe entre les doigts, elle crie, elle court plus, on la touche. Tais-toi, silence. Silence, Carmen. Silence, putain. Et, c'est un extrait issu du recueil de Cartes pour disparaître. Et c'est Carmen.
Orlando deu para si su un par de muletas. O negro voltou a se movimentar, olhando os outros nos olhos de novo. Não viveria para ver 1888 chegar. Era livre, mas pirula do errado. Não tinha nem a compaixão e nem a misericórdia dos outros. Era livre, porque tinha-me no Orlando foi atrás do rapaz cego, irmão gemio de Sisu. Viu Mané no meio da praça contando a história da Ilha Brasil, Ilha do Feitiço, do gente do olho de duas cores, a ilha que não existe. Brasil é uma mentira! Gritava o rapaz, branco feito à lua cheia. Trecho do romance Sorte.
Orlando donna à Sisu une paire de béquilles. L'homme noir recommença à se déplacer, regardant les autres, dans les yeux, comme autrefois. Il ne verrait pas arriver 1888. Il était libre, mais du mauvais côté. Il n'avait ni la compassion, ni la pitié des autres. Il était libre parce qu'ils étaient dégoûtés de lui. Orlando poursuivit le garçon aveugle, le frère jumeau de Sisu. Il entendit Manet, au milieu de la place, raconter l'histoire de l'île Brasil, une île de sortilèges, de gens aux yeux bicolores, l'île qui n'existe pas. « Le Brasil est un mensonge !» criait le garçon, blanc comme la pleine lune. Un extrait issu du roman « Sortez » d'Enara Vidal.
Bon, donc, je voudrais remercier encore une fois tous les étudiants qui ont fait ces lectures, à toute l'équipe organisatrice du Festival Bruit des Langues, à cette 13e édition, et surtout Anna Boissier, l'interprète d'Enara Vidal, à ma collègue Angélica Amancio, et bien sûr à notre chère écrivaine Enara Vidal, qui nous a beaucoup appris pendant cette courte séance et ce court séjour à l'Université de Poitiers.
Obrigada. Eu queria antes só agradecer rapidinho. Primeiro a toda a organização do festival, pelo convite, por toda a organização, enfim. A todos vocês que leram, a todos vocês que estiveram nas aulas, eu adorei ver vocês, conhecer vocês. Gostei de tudo, fiquei mesmo emocionada. Muito obrigada. Para a gente que escreve, isso é muito bonito. Então, obrigada a vocês duas por tudo, pelo convite, Karina, obrigada. E um muito especial a Ana, que fez isso aqui possível. Então, muito obrigada, querida. Obrigada mesmo.
Du coup, je pense que vous avez compris par le ton, mais quand même, juste pour être très clair, Nara vous remercie infiniment de toute l'organisation, de l'invitation, des lectures qui ont été faites, vraiment de l'opportunité d'être ici, ça la touche beaucoup. Vous avez vraiment beaucoup touché son cœur et elle a adoré vous rencontrer. Donc voilà, merci à tous.